Bonjour et bienvenue dans L'EM, une quotidienne pleine d'embruns finistériens du lundi au vendredi à midi et à 18h. Et aujourd'hui de l'iode, nous retrouvons notre L'EM Ocean, le L'EM de l'océan. Comme c'est le cas une fois par mois avec l'unité mixte de recherche AMUR, Centre de droit et d'économie de la mer, qui rassemble des chercheurs de l'Université de Bretagne-Ouest, de l'IFREMER, du CNRS, et notre invité est rattaché à l'IFREMER et docteur en économie écologique. Sa spécialité, ce sont les EMR, alias les énergies marines renouvelables. Les plus connues, c'est l'éolien, avec des éoliennes installées au large. C'est son sujet de prédilection. Les EMR, ça peut aussi être de l'hydrolien. Cette fois, ce sont les courants des marées qui font tourner des turbines sous la mer. Il y a aussi, par exemple, le houleau moteur, quand on récupère l'énergie de la houle. Bref, les EMR, c'est vaste. Et comme elles sont renouvelables, on en attend beaucoup. On se dit que ce sera bon pour l'environnement, mais rien n'est simple en ce vaste monde. Et notre invité va nous expliquer tout ça. Charlène Kermagorette est économiste de l'environnement et post-doctorante à l'UMR à Mur. Sa thèse, qu'elle a soutenue en 2014, avait pour titre « La compensation des impacts sociaux et écologiques » pour les projets d'aménagement, acceptation, perception et préférence des acteurs du territoire. Application au projet de parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. Bonjour Charlène.
Bonjour.
Alors on entend beaucoup parler depuis plusieurs années des projets d'EMR en France. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres pays d'Europe et pourquoi un tel engouement ?
Alors, on assiste plus généralement au développement des énergies renouvelables, que ce soit à l'échelle européenne ou internationale. Et ce développement, il est encouragé par la recherche d'alternatives aux énergies fossiles et nucléaires, et plus précisément du fait de l'épuisement des énergies fossiles et de leur impact sur le climat, et aux enjeux de sécurité et de déchets et de gestion des déchets radioactifs que pose l'énergie nucléaire. Alors, il existe des engagements internationaux et européens, et donc la France est engagée vis-à-vis de l'Europe dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et dans le développement des énergies renouvelables. Elle a adopté, pour être plus précise, le paquet énergie-climat en 2008, qui fixe un certain nombre d'objectifs. Alors, pour atteindre ces objectifs, la France, elle a choisi de miser sur les énergies marines renouvelables. Alors, pourquoi ? D'une part, parce que la France possède une surface maritime très importante. C'est la deuxième zone économique exclusive au monde. Et puis, à travers le développement des énergies marines renouvelables, il y a l'opportunité de développer une nouvelle filière industrielle. Alors, la France, elle rattrape son retard dans à travers la technologie de l'éolien en mer. Elle rattrape son retard par rapport à d'autres pays européens où ces technologies existent depuis plusieurs années. Je peux citer le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Danemark qui sont les plus avancés à ce jour. Et donc, toujours dans cette technologie de l'éolien en mer, l'État a lancé trois appels d'offres en 2011, 2013 et 2016 pour la construction de parcs éoliens en mer au large des côtes françaises. Là où la France est sur le devant de la scène, en revanche, c'est pour l'hydrolien, qui est une technologie moins mature, toujours en développement. Mais la France possède plusieurs sites d'essai et des fermes pilotes, c'est-à-dire des sites de test et de validation des prototypes, notamment en Bretagne.
Et l'éolien en mer, concrètement, il n'a pas encore vu le jour en France, en fait. Est-ce qu'il y a des parcs qui fonctionnent et en Bretagne ?
Disons que c'est en développement. Donc il y a un objectif qui est annoncé de puissance installée de 2,4 gigawatts d'ici 2023 à l'échelle française. Et on est très très loin de cet objectif aujourd'hui. Alors je vais peut-être revenir sur ce qu'on entend par énergie marine renouvelable. On en parlait tout à l'heure. Donc il y a l'énergie éolienne posée, l'énergie éolienne flottante, l'énergie hydrolienne, houleau motrice, mais également marée motrice, l'énergie thermique et l'énergie osmotique. L'énergie marée motrice, les technologies pour l'énergie marée motrice est développée depuis plusieurs années en France à travers l'usine marée motrice de la Rance, qui est opérationnelle depuis 1966. Et donc cette usine marémotrice, elle produit 240 mégawatts. Mais elle a des impacts écologiques qui sont forts. On pense notamment à l'envasement et aux problèmes écologiques, puisque elle forme un barrage et donc empêche certaines espèces de relier la mer et la rivière. Donc on n'est plus sur le développement de ce genre de technologie, d'autant plus que l'énergie marémotrice nécessite des courants de marée forts. Donc on privilégie aujourd'hui d'autres types de technologies EMR. Et donc je mentionnais plusieurs fermes pilotes et sites d'essai en matière d'hydrolien. En Bretagne, on peut citer les sites de Paimpol et de Ouessant. Mais donc le plus gros projet en Bretagne, c'est bien le projet de parc éolien en mer en baie de Saint-Brieuc qui est porté par Elmarine.
Et alors on en est où de ce projet justement en baie de Saint-Brieuc? Il n'est pas encore sorti des flots?
Non, il n'est pas encore construit. Donc les porteurs de projet restent optimistes et envisagent un début de la construction en 2021, une construction qui devrait durer 2 ans.
C'est qui les porteurs de projet alors?
C'est un consortium qui s'appelle Elmarine. C'est un opérateur espagnol qui s'appelle Iberdrola.
Il y aura combien d'éoliennes prévues? Quelle taille elles vont faire? Ça va ressembler à quoi en fait, un champ d'éoliennes pareil?
Alors initialement, le projet devait contenir 100 éoliennes qui produisaient 5 mégawatts chacune. Donc on est sur un projet de 500 mégawatts. La technologie éolienne en mer est une technologie qui se développe très vite. Et la puissance des éoliennes évolue et donc le projet a évolué. Aujourd'hui, on est sur, je crois, 62 éoliennes qui produiraient 8 mégawatts chacune.
Elles seraient situées à peu près à quelle distance des côtes?
Alors, au plus proche, il me semble que c'est 12 kilomètres. 12 kilomètres au large d'Erquy.
C'est un projet qui a commencé quand, en fait, dans sa conception?
Alors, c'est un projet qui est en discussion depuis plus de 10 ans, mais je dirais que le moment fort, c'est le moment où l'État est intervenu en lançant un appel d'offres, donc en 2011.
Donc c'est quand même assez long. On a l'impression que ça met quand même du temps à voir le jour des projets de parcs éoliens en mer, au large. Pourquoi?
Pour plusieurs raisons. Donc il y avait cette volonté forte de l'État de développer ces technologies, donc l'État a lancé ses appels d'offres. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de désengagement de l'État vis-à-vis des énergies marines renouvelables. Donc les procédures peuvent être un peu longues et compliquées pour les porteurs de projets. Et puis d'autre part, il y a des recours en justice par certains collectifs d'opposants.
Ah oui, par exemple, quel genre de collectif d'opposants?
Eh bien, des associations de sauvegarde de l'environnement et du patrimoine qui se constituent en collectif.
Donc c'est pour l'aspect paysager? Ou
pas
aussi
forcément.
Pour l'impact éventuel dont vous allez pouvoir nous parler, justement, l'aspect
ouais.
Écologique, en fait.
Ouais, alors sur Saint-Brieuc, c'est vrai que ce collectif d'opposants est souvent vu par d'autres usagers du territoire comme un regroupement de retraités qui possèdent des résidences secondaires avec vue sur mer et qui souffriraient du parc éolien qui aurait pour effet de diminuer la valeur des biens immobiliers. Alors, pour les avoir rencontrés, je dirais que les revendications sont plutôt autres. Ce sont en fait les seuls à avoir mentionné l'idée de précarité énergétique. et que les technologies EMR, et notamment l'éolien flottant, a un coût pour la société. Et donc, c'est pas du tout un discours pro-nucléaire. Il mentionne plutôt l'idée que si l'État avait investi autant dans la réduction de la consommation énergétique, ça aurait pu être plus efficace que le développement de nouvelles technologies. Et puis, il critique aussi le manque de transparence et de concertation dans le cadre de ces projets.
Et que pensent les pêcheurs de la zone de ce type de projet, enfin de ce projet dans le cadre de la baie de Saint-Brieuc ?
Alors, les pêcheurs, au départ, ils étaient contre ce projet. Enfin, disons que avant l'appel d'offres, il y avait déjà eu tout un travail de concertation avec d'autres porteurs de projets. Et puis, il y avait eu un consensus sur la localisation du parc dans la baie, la structure, etc. Et l'appel d'offres est arrivé et a bousculé tout ce qui avait été négocié en imposant une zone qui ne correspondait pas à celle qui avait été négociée. Donc il y a eu au début du projet une opposition de la part des pêcheurs.
Les pêcheurs de coquilles surtout, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on pêche, c'est ça ?
Ouais, essentiellement les pêcheurs de coquilles, aussi les pêcheurs au chalut qui pourraient être contraints par le parc du fait de la distance entre deux éoliennes qui impacterait la manœuvrabilité au sein du parc. Mais donc on est reparti à zéro avec ce nouveau porteur de projet. Et donc le porteur de projet, il est arrivé sur le terrain, il s'est adressé directement aux pêcheurs. Parce que dans un souci d'acceptabilité locale. Et à tel point que même les élus des communes de la baie de Saint-Brieuc allaient chercher des informations sur la structure du parc, sur les retombées, etc., auprès des pêcheurs. Et puis, je pense aussi à autre chose, une personne qui me disait que de toute façon, tout le monde avait un pêcheur dans sa famille et dans son entourage, donc la perception du pêcheur par rapport à ce projet influençait les perceptions des habitants de la baie de Saint-Brieuc. Donc un long processus de concertation, de discussion, mais en bilatéral entre les pêcheurs, en tout cas les représentants de pêcheurs et le porteur de projet a commencé. Et puis il y a eu un moment clé. C'est quand une petite délégation de pêcheurs est allée au Danemark, il me semble, là où un parc éolien existait déjà. Et puis là, ils ont pris conscience de la possibilité de compensation. Et donc, à travers la possibilité de mesures compensatoires et d'accompagnement pour l'activité de pêche, il y a eu un retournement de situation. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des négociations qui ont commencé. Et puis, il y a plusieurs points qui ont été discutés et validés.
Et dans les opposants éventuels au projet, est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient préoccupés essentiellement par la diversité, l'impact du parc éolien sur la biodiversité marine, enfin impact éventuel quoi?
Oui, donc toutes les associations naturalistes étaient favorables finalement au projet de parc éolien en mer, d'autant plus qu'ils s'étaient mobilisés contre un projet de centrale électrique, il me semble, quelques années auparavant. Donc ce projet d'énergie renouvelable était bien perçu, mais il y avait des craintes qui concernait la transparence de l'étude d'impact et puis la manière dont elle allait être menée. Donc, ils avaient un positionnement vigilant vis-à-vis de ces procédures-là qui concernaient l'environnement.
Et quel est l'impact alors de ces types de projets ? Donc, je rappelle, c'est des éoliennes au large, mais qui sont implantées dans le sol. Elles ne sont pas flottantes. Alors, est-ce qu'on connaît déjà cet impact ? On peut le mesurer ?
Il y a assez peu de... ça reste une technologie qui est récente, et même si elle existe déjà en Europe du Nord, chaque contexte écologique, social est différent. C'est souvent l'effet réserve, c'est-à-dire le fait que la pêche soit interdite au sein des parcs éoliens qui est mis en avant d'un point de vue écologique, mais ce n'est pas ce qui est envisagé pour le projet de Saint-Brieuc. La pêche devrait être autorisée au sein du parc. Un autre point qui est mis en avant, c'est l'effet récif, la possibilité que les pieux d'éoliennes soient colonisés par de la biodiversité.
Et alors, celui-là, en général, ça fonctionne dans les parcs plus anciens, on le constate, cet effet récif.
Oui, tout à fait. Et puis, ça peut être favorisé par... C'est avéré. Après, on peut se poser la question de la dénaturation de l'écosystème de départ, parce que c'est pas forcément les mêmes. On dénature en tout cas le substrat et puis potentiellement les espèces qui seront sur ces éoliennes.
Il peut y avoir un impact éventuel sur les courants marins ou du fait du socle, enfin je sais pas, là je dis n'importe quoi, mais...
Ben, ça aussi, c'est un volet de l'étude d'impact. Forcément, il y aura un petit impact. Après, est-ce que cet impact est important ? Est-ce qu'il va impacter la biodiversité, certains usages ? C'est dur à dire.
Et quels sont les autres impacts qu'on n'aurait pas envisagés, a priori, qui ont pu avoir lieu sur d'autres parcs ? Éoliens en mer, au large. Des impacts, je ne sais pas, sur la navigation de plaisance ou autre chose.
Ouais, donc dans le travail de thèse, là, donc on avait identifié plusieurs groupes d'usagers qu'on appelait des communautés de pratique hein, qui étaient impactés par le projet. Donc il y a les pêcheurs, on en a parlé, les associations. De naturalistes, on en a parlé également. Et puis, il y avait les usagers récréatifs qui, effectivement, craignaient un impact sur leur support d'activité, que ce soit au niveau du paysage aérien, du paysage sous-marin ou encore des espèces ciblées par la pêche récréative. Les avis étaient partagés. En tout cas, je tiens à rappeler qu'on est vraiment sur des impacts potentiels, hein, puisque le projet il n'existe pas. Les impacts restent peu connus et envisageables. Moi, en fait, j'ai surtout travaillé sur le principe de compensation. Donc,
et la compensation, on l'a évoqué donc pour les pêcheurs, c'est ça ? Il pourrait y en avoir pour d'autres publics, des compensations ?
Oui, alors en fait, lorsqu'on parle de compensation écologique, on est sur un outil réglementaire. Les porteurs de projets ont l'obligation d'éviter, de réduire et de compenser les impacts générés par le projet sur la biodiversité. Mais dans le cadre d'un projet EMR du type... projet de parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. La compensation, c'est également un outil mis en œuvre volontairement par les porteurs de projet pour favoriser l'acceptabilité du projet et qui vise, dans ce cas, les usagers du territoire et non directement l'environnement.
Et alors, comment ça se pratique concrètement ?
Donc, nous, on est allés faire des enquêtes pour savoir si le principe même de compensation, il faisait sens, est-ce qu'il était accepté, est-ce qu'il pouvait aussi contribué à l'acceptabilité du projet. Et puis, on s'est posé la question de savoir de quelle manière cette compensation, elle devait être mise en œuvre. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que il y a certains groupes d'usagers pour qui la compensation, ce n'est pas du tout l'outil de réponse adéquat aux impacts perçus. Et c'est notamment le cas du collectif d'opposants, puisque je l'ai dit, pour ce collectif d'opposants, le levier pour l'acceptabilité du projet, c'est plutôt la concertation, une transparence accrue des procédures lors de la mise en place du projet par les porteurs de projet. Et puis, pour les autres groupes d'usagers qu'on a enquêtés, la compensation, elle fait sens, elle est pertinente pour répondre aux impacts qui sont perçus. Alors, ce n'est pas forcément un levier pour l'acceptabilité des projets, sauf dans le cas des pêcheurs, pour qui ça a été déterminant. Pour les autres groupes d'usagers, donc les usagers récréatifs et les associations naturalistes, l'idée, c'est plutôt de maintenir un certain niveau de satisfaction et un certain état écologique à l'échelle du territoire. On s'est posé ensuite la question de savoir de quelle nature, quelle forme devaient prendre ces compensations pour répondre aux impacts sociaux et écologiques du projet. Ce qu'on observe, c'est un rejet fort des compensations sous forme d'indemnisation financière, qu'elles soient individuelles ou collectives. Encore une fois, sauf dans le cas particulier des pêcheurs, où il y a un réel manque à gagner du fait de l'impact sur la ressource. Et donc dans ce cas, c'est la compensation financière qui peut être privilégiée, mais pas que. Et donc pour les autres communautés de pratique, donc les naturalistes et les usagers récréatifs, là, la compensation, elle peut prendre plusieurs formes, mais elle doit bénéficier à l'ensemble des usagers sur le territoire. Concrètement, des compensations qui sont réalisées directement à l'échelle des écosystèmes, telles que des campagnes de lutte contre la prolifération de la crépidule, qui est un petit mollusque gastéropode exotique et qui envahit la baie de Saint-Brieuc, ou encore une mesure telle que le réensemencement de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc sont des mesures qui sont bien perçues et qui pourraient répondre aux impacts socio-écologiques que ces usagers perçoivent.
Parce que la crépidule, elle ne vient pas du fait du parc éolien. C'est juste qu'on fait une mesure pour consoler, entre guillemets, mais qui n'a pas forcément de lien avec le parc éolien, c'est ça ? J'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Je le répète, on est sur un projet qui n'existe pas encore. Les impacts, ils sont peu ou pas connus à ce stade. Et en partie, les compensations, elles sont négociées en amont avec des groupes d'acteurs sur la base d'impact potentiel. Alors, c'est sûr qu'en plus, il y aura l'étude d'impact sur l'environnement qui va aussi venir préciser un certain nombre de choses sur les impacts écologiques avérés et les mesures qu'il faut mettre en œuvre pour garantir le maintien de la biodiversité et de l'intégrité de l'écosystème. Mais on est effectivement sur des mesures qui peuvent être déconnectées des impacts du projet. Et puis, je vais peut-être préciser aussi que pour les associations naturalistes, la compensation, elle est recevable uniquement si elle s'inscrit dans ce cadre réglementaire d'évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet. Et donc, elle doit être définie dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement et non sur la base de discussions, à négociations avec les usagers.
Et les aspects éviter, réduire, est-ce qu'ils sont pris en compte et comment ?
Alors, dans le cadre du projet de parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc, l'évitement, il peut être, il a été pris en compte dans la planification, dans la décision du périmètre pour le projet, donc en évitant certaines zones protégées qui ont des intérêts écologiques. Pour la réduction, il y a des mesures qui sont souvent proposées dans le cadre de la construction des parcs éoliens en mer, notamment des mesures de réduction du bruit sous-marin pendant la phase de travaux qui pourraient avoir des impacts sur les mammifères marins. Mais ça reste quelques mesures et puis la compensation est tout le temps privilégiée. En tout cas, c'est vrai qu'elle... c'est le maillon fort, malheureusement, de la chaîne éviter, réduire, compenser. Et c'est ce qu'on observe dans d'autres projets d'aménagement. La séquence éviter, réduire, compenser a pour but de dissuader certains projets d'aménagement si on n'est pas capable de maintenir un certain niveau de biodiversité. Et on s'aperçoit dans la plupart des projets d'aménagement que c'est la compensation qui prime, et donc ça peut être vu comme un droit à détruire si c'est pas bien mis en œuvre.
Ouais, c'est un peu la solution de facilité, quoi, si on veut.
On peut dire ça.
Et il y avait une demande de transparence quand même. Est-ce que dans les mesures presque compensatoires, il a été demandé qu'il y ait une, je sais pas, commission locale d'information comme il peut y avoir pour les centrales nucléaires, ou c'est prévu déjà par la loi que les citoyens puissent suivre, en fait, une fois le projet en place, le parc, en fait, et son impact.
Oui, donc il y a l'étude d'impact sur l'environnement. Lorsqu'elle est rendue publique, les gens peuvent la consulter. Il y a des propositions de compensation des impacts écologiques. Et puis, ce qui est souvent programmé par les porteurs de projets, c'est effectivement la mise en place de suivi des impacts et qui devraient permettre aussi d'ajuster les mesures compensatoires qui sont prévues initialement.
Merci Charlène Kermagorette. Merci aussi à Alix Levin, notre chercheuse du CNRS, qui est aussi bénévole de Radio Évasion, à qui nous devons ce partenariat avec l'UMR Amur et que nous retrouverons une dernière fois pour la saison dans l'EM. Ce sera au mois de juin. Il sera question cette fois de pêche et de ressources pêche.